Bonjour tout le monde, Parole Podcast de retour et on va parler d'un sujet sympa, la finance. Oui, oui, et je vais faire en sorte que vous appréciez la conversation avec Bertrand Badret. Bertrand a un parcours dans le secteur privé et public. Il est également auteur de deux livres, dont celui qui m'a particulièrement marqué, Can Finance Save the World ou Money Honey, livre coécrit avec Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique. Il est aujourd'hui cofondateur et partenaire du fonds d'investissement Blue Lagoon Orange Sustainable Capital, fonds qui focalise ses investissements en Amérique latine. Dans la série de The Future Of, vous avez cet épisode avec Bertrand que je vais intituler The Future of Finance. Et si vous n'avez pas encore écouté Tim Kyle, épisode 88, directeur chez Microsoft de The Future of Work, allez-y. J'interview des personnes ayant travaillé dans plusieurs zones géographiques qui ont donc une perspective que je trouve intéressante en me basant sur leur carrière. Dans la même foulée, je vais vous indiquer quelques livres qui m'ont redonné espoir à ceux et celles qui parlent de finance et qui y voient un outil pour le bien. Trois livres que j'ai cités en début de conversation, le livre de Bertrand, celui de Meyer Desai, The Wisdom of Finance et Completing Capitalism de Bruno Roche et Jay Jacob. Sur les trois livres cités, pour l'instant, il n'y a que celui de Bertrand qui est traduit en français. Je tiens aussi à vous partager le livre du rabbin Daniel Lapin, toujours en anglais, Thou Shall Prosper. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'investis beaucoup dans mon podcast. C'est la lecture, tout ça. Et si vous êtes du genre à ne pas avoir trop de temps, vous avez également la chaîne YouTube du rabbin Lapin pour vous égayer. À préciser, il touche particulièrement le sujet du personal finance. Et vous ? Quel est votre regard sur le sujet de la finance? Peut-être travaillez-vous dans le milieu et vous pensez que le monde va sa perte, ou alors vous êtes plus optimiste et vous voyez quelques rayons de soleil dans un monde de brut. Je vous invite à écouter cet épisode en sachant que Bertrand ne se définit pas comme quelqu'un ayant la science infuse, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui fait preuve d'humilité. Et pour finir, si jamais vous connaissez une personne qui est en train de travailler et de lancer sa start-up en Amérique latine, n'hésitez pas à la connecter avec Blue Like an Orange. On n'est pas à l'abri d'un miracle. Parole est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, GoodPods, AfriPods. Laissez un commentaire en DM. Vous pouvez également laisser des étoiles chez Apple et Spotify. Et oui, j'ai pour objectif d'atteindre 1 million de téléchargements par épisode et j'ai besoin de votre aide. Passez le mot. Parole podcast aujourd'hui à Paris, entre Paris et Lyon. Et aujourd'hui, on va parler finance, un sujet qui est toujours un peu d'actualité, que peut-être s'intéresse dessus. Mais j'ai ramené quelqu'un qui va nous expliquer un peu son intérêt sur pourquoi changer les mentalités, pourquoi voir autrement le monde de la finance. Quelque chose que j'essaie de faire même moi personnellement. Donc, je vais vous laisser 2 minutes pour vous présenter, Bertrand, et puis on va rentrer dans les questions.
Bonjour, je m'appelle Bertrand Badret, j'ai passé l'essentiel de ma vie à explorer les différents recoins de la finance, traditionnels et moins traditionnels. J'ai eu la chance d'explorer à peu près tous les métiers. J'étais à la fois du côté des finances publiques au ministère des Finances et du côté des finances plus privées comme banquier d'affaires à Londres, New York puis Paris. J'ai travaillé sur la finance du développement auprès du président Jacques Chirac en 2003. Au moment où on mettait en place notamment le financement du Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Et j'ai travaillé sur le financement de l'accès à l'eau et puis sur ce qui est devenu la taxe dite Chirac sur les billets d'avion. J'ai été directeur financier de 2 très grandes banques, Crédit Agricole et Société Générale, pendant toute la période de la crise financière. Puis directeur général de la Banque mondiale à Washington, avant de créer avec mes associés Blue Like an Orange Sustainable Capital, qui est un fonds d'investissement dans le développement durable, dans les pays émergents en développement. Et à côté de ces activités professionnelles, j'ai pas mal écrit, pas mal pris la plume, pas mal parlé, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ces métiers et comment on pouvait les faire évoluer.
Absolument, en tout cas belle présentation. Je vais éviter tout ce qui est Blue Like an Orange, la définition, je vais laisser aux auditeurs d'aller voir d'autres très bons épisodes que vous avez faits. Je vais surtout parler des bouquins, moi, parce que moi j'ai fait des études de finance, et c'est vrai que j'avais toujours un peu entendu, beaucoup d'ailleurs, le fait que, pour faire simple, il faut se faire du pognon, et je suis tombée sur 3 bouquins, dont Can Finance Save the World, qui est votre bouquin,
Il y a celui de Mir Desai, qui est un professeur à la Harvard Business School, qui est The Wisdom of Finance, et celui de Bruno Roche et Jay Jacob, Completing Capitalism. Et pour moi, ces trois bouquins, je les ai relus, je pense, en 2020-2021, et j'ai redécouvert ce que moi, j'avais voulu apprendre à l'école. Ça, c'était ma discovery, on va dire. Pour vous, comment vous définissez avant tout la finance ?
La finance, c'est, comme je le dis dans Can Finance Save the World, c'est un outil, et probablement des outils les plus puissants qu'on ait à notre disposition. C'est ce qui permet de se projeter au-delà du, comme on dit en latin, hic et nunc, ici et maintenant. C'est-à-dire que sans finance, on va vivre là où on est, au moment où on est. C'est pas forcément mal d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et grâce à la finance, on peut se projeter dans le temps. Donc on peut dire, je pense que dans 5 ans, il faut que j'ai fait ça, et donc je peux d'ores et déjà me projeter pour construire ça dès aujourd'hui et penser plus loin. Et pareil, je peux aussi me projeter au-delà des océans. On peut se projeter au loin, et dans le temps et dans l'espace. Et donc ça permet de déformer notre immédiat humain. Donc c'est un outil extraordinairement puissant, extraordinairement transformateur. Mais comme tous les outils puissants, il peut acquérir sa propre autonomie. C'est-à-dire qu'après, la machine fonctionne. C'est le principe de l'apprenti sorcier, si vous voulez. Donc voilà, pour moi, c'est ça la finance. C'est cette capacité à démultiplier la capacité de l'humain à faire. Et on retrouve un peu d'ailleurs le même type de raisonnement quand on parle de technologie. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes, c'est les deux mêmes forces qui aujourd'hui sont à la fois craintes et adorées. C'est-à-dire qu'à la fois la finance et la technologie font peur, et en même temps, on voit bien que c'est une partie de la solution.
Oui, exactement. Je vais revenir surtout sur la deuxième partie du livre, du titre du livre, qui dit « Regaining power over money ». Qui pour moi, c'est un peu, je retrouve ça un peu dans la Bible, je veux dire, c'est l'esprit de maman, c'est soit on se fait contrôler, soit on contrôle. C'est pourquoi cette deuxième partie du titre ? Pourquoi ne pas avoir gardé « Can Finance Save the World » gentiment ?
Il y a un aspect pratique, c'est que c'était un livre américain, et les livres américains, il faut qu'il y ait un sous-titre, donc on a mis un sous-titre. Et puis, il y avait quand même l'explicitation derrière un titre un peu ronflant et un peu triomphant et un peu provocateur, parce que la réalité, c'est que 99% des gens ne pensent pas que la finance peut sauver la planète. Comme souvent on me l'a dit dans mes conférences, si déjà la finance pouvait arrêter de ruiner la planète, ce serait bien. Alors sauver, il ne faut pas trop en demander. Donc le sous-titre était bienvenu, et le sous-titre, c'est un peu un écho. Alors on en retrouve des échos dans la Bible, évidemment, dans l'Évangile, mais aussi dans la sagesse populaire. Ça, c'est l'idée que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Ouais. Et on revient à l'idée que c'est un outil. Et donc, il faut absolument intégrer le fait que ce n'est pas la finance qui guide, mais que c'est nous qui guidons la finance, que ce n'est pas la main qui contrôle l'outil. Enfin, ce n'est pas l'outil qui contrôle la main, plutôt, mais la main qui contrôle l'outil. Et donc, regagner le contrôle, c'était dire, voilà, on a d'une certaine manière libéré des forces incroyables. Il faut faire rentrer ces forces dans la lampe, si je puis dire, et l'utiliser à bon escient.
Absolument. Écoutez, une des raisons pour laquelle, si ce n'est la raison pour laquelle je vous ai invité sur le podcast, qui se focalise non seulement sur l'avenir de l'Afrique, le potentiel de l'Afrique, c'est que, justement, avec votre fonds d'investissement, vous investissez en Amérique latine et tout ce qui est pays émergents. Et ayant évolué dans les deux, on va dire dans les pays riches et dans les pays moins riches, quel est votre regard maintenant en 2023, ou en 2024, sur l'évolution des pays, de la vision des pays, de comment on va s'en sortir ? Est-ce qu'on a toujours un peu cet esprit de pauvreté, ou on se rend compte que la technologie est en train de chambouler deux, trois petites choses, et que peut-être dans 20 ans, 50 ans, le Burundi, le Rwanda seront mieux lotis ?
C'est une question qui est toujours difficile. Alors on a à la fois une réflexion qu'on a envie d'avoir par pays et qui est légitime, c'est le cadre dans lequel les gens se représentent, et le Burundi comme la France, comme le Luxembourg, comme la Colombie, etc. Et c'est le cadre pertinent sur la planète depuis 400 ans, alors avec des hauts et des bas, et en Afrique ça a été compliqué. Mais enfin voilà, en tout cas c'est comme ça que la société fonctionne aujourd'hui. Et en même temps, ce qui rend l'exercice difficile, on a des problématiques qui dépassent le cadre des pays, de toute nature, que ce soit quand on puisqu'on parle d'Afrique, la question de la zone de libre-échange continentale, on voit bien que c'est un problème qui dépasse le strict cas du Burundi et du Rwanda, pour prendre ces deux pays. Mais quand on parle du climat, c'est une problématique mondiale qui ignore les frontières. Si tel ou tel pays respecte sa stratégie climat, mais que le pays voisin ou même un pays à 10 000 km ne le fait pas, c'est pas bon. On l'a vu avec la pandémie, évidemment, les frontières n'ont pas très bien fonctionné. On le voit sur le risque cyber. Enfin, je peux faire une liste infinie de questions qui ne sont pas des questions liées aux frontières des pays, mais des questions planétaires. Et donc, il faut faire attention dans ces questions, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on on avait fonctionné sur un système de réouverture de la mondialisation après 1945, fait autour des pays, avec des organisations multilatérales. FMI, Banque mondiale, OMC, etc. On voit bien que ces organisations, elles ne sont pas complètement adaptées aux défis qui ne sont plus des défis de la mondialisation, mais d'une certaine manière, ce que j'appelle les défis de la planétarisation. Et en même temps, on a des pays qui s'affirment, avec des logiques parfois impériales, typiquement Russie ou Chine, par exemple, des logiques plus nationales, mais les frontières reprennent de la valeur. Et donc, on a cette tension où les pays veulent s'affirmer, veulent exister, veulent montrer qu'ils sont capables, et c'est parfaitement légitime, et en même temps trouver une capacité à les faire travailler ensemble. Et cette capacité à travailler ensemble, elle est plutôt atteinte aujourd'hui. On a plutôt plus de forces centrifuges que de forces centripètes dans le système. Donc on est à un carrefour où on voit bien les défis planétaires, on voit bien les défis au niveau de chaque pays. On voit bien que il y a quand même un rééquilibrage du monde entre, pour faire très court, le G7 ou l'OCDE d'un côté, qui reste quand même le pôle dominant en termes pour parler même très, très sommairement, en termes de PNB, y compris au rapport de la population représentée. Enfin, effectivement, le G7 ou les pays de l'OCDE doivent représenter entre 40 et 50% de l'économie mondiale, mais avec 10% de la population. Et on a vu les débats lors du récent sommet des BRICS, ou l'élargissement des BRICS. Alors, il y a un côté un peu faux, au sens où les BRICS, c'est quand même 70% la Chine. Donc, les BRICS représentent tout ça, c'est vrai, mais c'est d'abord la Chine, ensuite l'Inde, puis le Brésil, puis le reste. Mais la réalité, c'est que d'ici 20 ou 30 ans, cette économie émergente en développement, elle représentera, et c'est normal, la majeure partie de l'économie planétaire. Et donc il ne faut pas que ça soit une course pour savoir qui représentera le plus, parce que de toute façon on est sur la même planète. Et donc le débat, il est très dur, et on l'a vu au sommet de Paris au mois de juin, où il y a plusieurs agendas qui rentrent en conflit, l'agenda du développement et l'agenda du climat et de la biodiversité. Pour beaucoup, l'agenda du climat et de la biodiversité, c'est un agenda occidental. Vous, occidentaux, vous avez, c'est vrai, cramer une partie du budget carbone de la planète, abîmer la biodiversité et significativement altérer la santé de notre planète. Maintenant, vous vous réveillez et vous dites qu'il faut changer ça, et vous nous dites qu'il faut le faire, et vous aussi, parce qu'on est sur la même planète. Et en même temps, ça se fera au détriment des politiques de développement, d'éradication de la pauvreté, etc. On voit bien que c'est des questions compliquées qui sont à la fois des questions de nature économique, mais aussi des questions de nature géopolitique, avec une instrumentalisation pour d'autres raisons, par des gouvernements dits autoritaires et libéraux, ou par des dictatures, d'un agenda politique. Donc tout ça fait que c'est difficile de répondre à votre question en disant comment on se projette dans 20 ou 30 ans. Le sous-jacent, c'est que le développement va se poursuivre, parce que c'est comme ça, avec des hauts et des bas, parce que c'est comme ça, mais qu'on ne peut pas faire comme si ce développement se passait hors sol. Il se passe sur une planète qui est la nôtre, et qui elle-même a des problèmes. Donc voilà, donc on est face à une équation d'une complexité assez inouïe, où alors c'est particulièrement vrai dans les pays occidentaux, parce qu'il y a aussi cette question de est-ce que l'Occident est remis en cause. C'est une question aussi importante qui se traduit par des mouvements populistes, qui se traduit par des tensions politiques et sociales extrêmement fortes, et qui donne le sentiment à beaucoup d'être submergés. Enfin, qui disent je comprends plus la pandémie, le climat, les réfugiés, tout ça, moi j'y arrive plus. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et en face de ça, des pays qui commencent à s'affirmer et qui ne savent pas s'il faut s'affirmer contre ou s'affirmer avec ou s'affirmer pour. Et donc, c'est la somme de tout ça qui fait que l'environnement est particulièrement lourd à décrypter aujourd'hui.
Par exemple, pour revenir un peu sur ce que vous disiez sur le regard un peu géopolitique et surtout, je dirais, tout comme on redéfinit le New World Order, comme le diraient certains, est-ce qu'il faut peut-être pas redéfinir ou rechanger, c'est-à-dire tout ce qui est Bretton Woods et se dire, bon, on va faire les choses version 2023, on va prendre Banque mondiale, on va reprendre les bonnes bases et restructurer tout, enfin détruire pour mieux reconstruire
Voilà, alors
pour...
ça c'est le raisonnement français qui est de dire on va prendre la Bastille et on va faire la Révolution, on va tout réinventer. Et le 4 août, on abolit les privilèges et le 18 Brumaire, on a Napoléon. Mais ça ne marche pas comme ça. Bretton Woods, ça a été un miracle en 1944. Il y a des circonstances extrêmement particulières, une guerre mondiale dévastatrice, des États-Unis qui étaient plutôt bénévolents. Enfin, en gros, on peut faire tous les procès d'intention qu'on veut, et ils n'étaient pas parfaits, mais enfin. Globalement, ils auraient pu dominer la planète tout seuls et ils ont choisi de remonter un système en mettant en place des outils. Bon, c'est comme ça. On va pas se raconter d'histoire. Je ne sais pas réinventer Bretton Woods aujourd'hui. Donc c'est ça la tension. C'est que oui, bien sûr qu'il faudrait, si on était dans un système idéal, dans un monde avec une table rase, on pourrait redessiner une planète. Mais il n'y a pas de voile d'ignorance. On n'est pas dans un monde idéal. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de réformer Bretton Woods, ce qui est plutôt la voie que je préférerais, donc de modifier les rapports de force, si je puis dire, ou le poids de chaque pays à Bretton Woods. Et ça a été fait globalement pas assez. Il reste la dernière étape, qui est-ce qu'on l'Occident devient minoritaire? C'est une vraie question. Mais donc est-ce qu'on peut réformer Bretton Woods? Est-ce qu'on peut réformer les Nations Unies? Est-ce qu'on peut réformer ces instruments? Mais je sais pas, on va pas raconter l'histoire, on va pas réinventer Bretton Woods. Et d'ailleurs, les BRICS, où il y a un peu ce fantasme, qui est payé encore une fois, pour avoir beaucoup parlé avec un certain nombre de pays qui sont derrière ces initiatives, je comprends ces fantasmes, mais les BRICS ne pourront pas se substituer à Bretton Woods pour une bonne et simple raison, c'est que les Occidentaux ne rejoindront pas les BRICS. Donc est-ce qu'on aboutit à deux systèmes, un peu comme il y aura peut-être dans Internet dans quelques années? Ou est-ce qu'on aboutit à des BRICS qui sont un contrepoids dans un système international qu'on a conservé et amendé? Je ne sais pas. Mais l'idée de. Enfin, moi, je fais toujours attention quand les gens me disent qu'il faudrait faire ça. Oui, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Donc, on va pas transformer le système d'un coup de baguette magique. Cette baguette magique, elle n'existe pas.
Ouais, non, mais c'est au moins c'est sincère. Quel est votre regard du coup par rapport à, si ce n'est pas les Bretton Woods, c'est sûr, la RSE. Moi, je vois comment il y a eu une espèce d'excitation quand on parlait tous du climat et qu'on va tous réformer et tout ça et tout ça. Et maintenant, il y a un regard qui est plutôt, je me base sur celui de Larry Fink, qui est le CEO de BlackRock, qui dit, bon, en fait, tout ce qui est RSE, c'est plus un peu notre projet. Si tout le monde se met à faire ça, où est-ce qu'on va?
Alors d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a la RSE qui est un concept ancien qui ne va pas disparaître, et qui est la responsabilité des entreprises. Et puis il y a tout ce qui est, et ça c'est le point de vue de Larry Fink, tout ce qui est modalité de gestion de notre argent, ce qu'on appelle l'ESG. Et donc il faut faire attention à pas tout mélanger. C'est des choses différentes et il faut bien, là aussi, il faut pas participer du mouvement de scepticisme général en mélangeant tout. Je suis désolé d'être un petit peu direct. Et donc faut garder les choses différentes. La RSE, ça touche à une question qui est très simple et en même temps qui est au cœur du modèle capitaliste tel qu'il s'est développé depuis 50 ans. Est-ce qu'au fond, les entreprises ont une responsabilité autre que de faire du profit? C'est la fameuse phrase de Milton Friedman de 1970. L'objet social de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Alors la phrase, elle était dite dans un contexte très particulier. C'était General Motors, première entreprise mondiale, qui réfléchissait à faire entrer à son conseil d'administration trois représentants de ce qu'on appelait le public interest, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les stakeholders ou les parties prenantes aujourd'hui, ou la société civile, ou peu importe. En tout cas, des gens qui auraient autour de table du General Motors dit, attention, vous, General Motors, vous devez faire attention à des problématiques, peut-être environnementales, peut-être sociales, peut-être autres, j'en sais rien. Et Friedman avait dit, ça, c'est pas le business de General Motors, ça, c'est le business de l'État, des communautés, de plein de gens. Mais l'objet social de l'entreprise, c'est le profit, point barre. Ne lui faites pas faire autre chose. Et c'est toujours ça qui est au cœur de notre modèle aujourd'hui. Donc la RSE, et ça ne date pas d'hier, hein, vous n'étiez pas né, mais moi quand j'étais étudiant, on parlait déjà de RSE, c'était... À l'époque, c'était vraiment minimal. C'était, je m'occupe des gens autour de l'usine, autour du truc. J'ai une fondation, etc. Et petit à petit, ça a quand même été l'idée que l'entreprise, alors c'est pas une citoyenne comme les autres. Enfin, elle a quand même sa place dans la cité. Et en tant qu'acteur de la cité, elle a quand même des responsabilités. Donc, on s'est un peu écarté, mais sans transformer le modèle. L'ESG, ça vient derrière. C'est est-ce que on applique des normes au modèle de profit? Qui reflète cette responsabilité particulière vis-à-vis de la cité. Et là, on a un débat très dur aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'on doit passer d'une partie, une phase que j'appellerais un peu cosmétique, ou en tout cas facile. Enfin, les premiers pas en ESG, en RSE, ils sont assez simples. C'est un peu à l'image, comme je disais à l'époque, en 2015, quand on a fixé les objectifs climat, les objectifs de développement durable, on a vendu ça comme une transition. C'est le mot qu'on a employé. Et on a dit, on va baisser les émissions, pour prendre l'exemple du climat, de 1 ou 2% par an pendant 30 ans. Et à la fin, on aura fait le boulot. Et il n'y a personne de normalement constitué à qui on dit, là, vous allez faire un effort de 1 ou 2% par an, qui vous dit, je ne peux pas. Si on vous dit, vous allez perdre du poids pendant 30 ans, 1% par an, vous dites, c'est super, je signe. Et donc, tout le monde a acheté ça. Cette transition. Et le fait est, on s'est rendu compte qu'on ne sait pas faire ça. Même les 1 à 2%, on n'y arrive pas. Et donc, depuis 2015, on a plutôt continué à faire plus 1 ou 2 par an plutôt que moins 1 ou moins 2, ce qui fait que sur 7 ans, on a encore décalé la ligne, et on voit bien que ce n'est pas une transition dont il s'agit. Et pourquoi c'est dur aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte que si on est sérieux sur les objectifs qu'on s'est donnés en 2015, ce n'est pas une transition qu'il faut. Alors, je vais reprendre l'exemple français, c'est une révolution ou une transformation. Et cette transformation, comme toute transformation, il y a des gagnants et des perdants, elle fait mal. Ouais. Et d'où les tensions où vous avez d'un côté, pour faire très très court, être extrêmement caricatural, des ONG ou des plus jeunes qui vont vous dire « Attendez, si on est vraiment sérieux et c'est une transformation qu'il faut, il ne faut pas attendre, il faut faire ça très vite. » Et donc, je reviens à ce que vous dites tout à l'heure, il faut prendre la Bastille. Et en face de ça, vous avez des gens qui disent « Attendez, moi, je n'avais pas compris que c'était aussi profond comme truc. » Typiquement, les républicains américains qui disent « Attendez, l'ESG ne passera pas par moi. » Et donc, on revient aux fondamentaux du capitalisme. Milton Friedman n'est pas mort. Et donc, moi, je ressors mon Stetson, mes pistolets, et on fait du capitalisme comme avant. Et donc, c'est normal qu'on ait ce débat. Puisqu'on se rend compte que si on est sérieux, c'est quelque chose de très dur. Et si c'est très dur, y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et donc, on est en plein dans ce débat aujourd'hui, qui ne me choque pas, qui est légitime, mais qui est très dur. Et je ne sais pas dans quel sens il va basculer.
Et par rapport à la conférence qui s'est passée en juin, qu'est-ce qui en ressort? Si déjà, tu peux nous présenter le...
Le sommet de juin, il a une... Il a eu plusieurs bénéfices. Le premier, c'est qu'il a posé les bonnes questions. Et alors, évidemment, les gens disent, on n'a pas parlé de milliards, de milliers de milliards, de machin, etc. Dès le début, et j'avais échangé avec le président de la République là-dessus, j'avais dit, c'est pas un sommet, comme on dit, de pledge. C'est pas un sommet où on va promettre des choses. D'ailleurs, la réalité, c'est que les gens ne croient plus à ces promesses. On a promis tellement de fois des dizaines, des centaines, des milliers de milliards, que les gens ne savent pas où ils sont. Je lui dis, le sommet sera un succès si dans 10 ans, on dit, tiens, c'est à Paris, en 2023, qu'on a commencé à faire bouger le supertanker, à changer de discours et donc à changer les pratiques. Pour moi, c'était ça qui était important. Et ce sommet, il a eu ce mérite. L'idée de parler d'un nouveau pacte financier mondial, ça paraît banal, mais en fait, c'est très important. L'idée de dire que la lutte contre l'environnement ne se substitue pas à la lutte contre la pauvreté, mais que les deux doivent fonctionner ensemble, c'est très important. L'idée de dire qu'il faudra plus d'argent gratuit, concessionnel, pour prendre le langage du développement, c'est très important. Que tout ça ne sera pas gratuitement. Qu'il faut trouver des raisons de mobiliser le secteur privé. Donc tout ça, pour moi, c'était très, très positif. On a mis ces questions sur la table et on a eu un endroit où vous avez... et moi, j'ai participé. Il y a eu des discours très durs. Enfin, le président sud-africain, le président brésilien... ont eu des mots importants. Mais alors les gens disent, les mots, c'est pas important. Si, les mots, c'est important. C'est comme ça que les choses évoluent. Alors on dit, après, il n'y a pas eu de décision, on n'a pas transformé Bretton Woods. Qui pouvait croire qu'en 6 mois, on allait transformer Bretton Woods? Personne. Et alors après, il y a beaucoup de mauvaise foi là-dedans. Les gens disent, bah oui, on aurait pu, etc.
Ouais.
Donc pour moi, c'est... J'aurais même été frustré s'ils avaient abouti à un sommet où on dit, on a mis 500 milliards sur la table. Il y en a eu plein des trucs.
Ah, ok, quand même, ouais, ok.
Ça, on ne l'a pas fait et
C'était pas
c'était pas
l'idée.
l'idée. Et puis d'ailleurs, ce sommet n'a pas d'existence en soi. Ce sommet, c'est une invitation de la France à discuter de problèmes. Quels sont les sommets qui ont une incidence? C'est les COP, parce que ça existe. C'est les G7, c'est les G20, c'est les conférences comme il y a eu aux Nations Unies sur la haute mer. Voilà, là, il y a une mécanique institutionnelle avec une capacité de prendre des décisions. Le sommet de Paris, il y avait 50 États et pas 180. Voilà, après, c'est. Pour moi, c'était important de poser ces questions, de les mettre sur la table. Donc voilà, c'est sûr que les gens me disent, bah, il ne s'est rien passé. Je dis, oui et non. Non, on n'a pas transformé le monde, mais oui, on a dit qu'il fallait le transformer.
Mais c'est qui fait le post-service, j'allais dire, le customer service en disant, bon, par exemple, je vais donner l'exemple du Rwanda. Le Rwanda est là, est venu assister, ils sont rentrés. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Est-ce que
Oui,
Bertrand
alors.
va aller voir
Non, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est Blue Like an Orange. J'ai contribué.
Oui.
Non, mais il faut pas non plus faire mélanger les gens. J'ai contribué bénévolement. J'ai travaillé sur le rôle du secteur privé. Et je vais continuer, etc. Et chacun a sa place. Hein, c'est pas. Non. En revanche, la présidence de la République en France s'est engagée à faire une conférence de suivi dans 2 ans, à rendre compte dans 6 mois. Je peux pas vous en dire plus parce que sauf que j'ai vu le président hier qui m'a dit ce qu'il voulait faire, mais il va y avoir un mécanisme de suivi mis en place au niveau international. Donc tout ça se met en place. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faudrait que les choses se transforment dans la nuit, que les réseaux sociaux puissent dire ça y est, c'est fait. Ces trucs-là prennent des
Ça
années.
prend du temps.
Mais
Ouais,
oui, et
c'est sûr.
c'est comme tous ces sujets de changement de modèle capitaliste, de normes comptables. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de grand soir. Ça prend du temps. Et donc voilà. C'est pour ça que moi, j'ai pas de frustration parce que j'avais des attentes
OK.
qui était à peu près câblé là où ça
OK.
pouvait atterrir.
Ouais, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous êtes satisfait du sommet? Bah, tant mieux. OK. Par rapport à la finance, bien sûr, il faut que je parle du truc le plus basique, c'est la banque. Comment on définit la banque? Quel est le futur de la banque? Et comme vous avez précisé, comme vous avez travaillé dans le privé, dans le public, quel est votre regard maintenant dans les pays émergents? Si vous pouvez nous donner un exemple, moi je pense à Nubank en Amérique latine, je pense à M-Pesa, j'allais dire au Kenya, mais surtout en l'Est de l'Afrique. Quel est le rôle de la banque et de la fintech, c'est-à-dire la technologie? C'est vraiment les deux peurs dont vous parlez précédemment, qui sont liées, qui sont un peu le moteur
Pour moi,
de ce débat.
c'est un sujet central. C'est un des sujets que j'ai poussé au sommet de Paris. Je pense que on a dans les pays émergents en développement un secteur privé qui est très déséquilibré. C'est-à-dire qu'on a un petit nombre de très grandes entreprises, de très grands entrepreneurs dans des secteurs plutôt monopolistiques ou oligopolistiques. Vous allez retrouver la construction, les télécoms, etc. Enfin bon, bref. Photos un peu partout, et une masse d'entreprises toutes petites informelles. Et vous avez très peu, entre les deux, de PME, de TI, enfin peu importe, entreprises de taille intermédiaire qui opèrent dans des secteurs différents, qui font de l'innovation, qui innervent l'économie. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons un peu presque psychologiques qui est de dire, bah, le secteur privé, c'est. En gros, c'est un sous-produit du développement. Si on fait des infrastructures, le secteur privé va se développer tout seul. Bon. Et il y a très peu de pays qui sont focalisés sur le développement du secteur privé en tant que tel. Il y en a beaucoup qui ont des politiques vis-à-vis des grandes entreprises, des grands conglomérats, mais de secteur privé au sens de source d'innovation, de création d'emplois, etc., c'est exceptionnel. Il y a très très peu de stratégies de développement du secteur privé. Il y a pas forcément l'écosystème. L'écosystème, c'est des comptables, des consultants, des chambres de
Oui.
commerce, des trucs. Enfin, tout un système qui fait que l'entrepreneur, il n'est pas tout seul à mouliner à la cave, mais qu'il y a des gens qui l'aident, qui l'accompagnent, etc. Et ça prend du temps. Enfin, je veux dire, ça s'est pas fait aussi du jour au lendemain dans les pays développés. Enfin, donc tout ça, il y a tout un écosystème à mettre en place. Il faut évidemment aussi des financements. Et un des gros problèmes des financements, c'est que dans la plupart de ces pays, les banques traditionnelles prêtent de manière traditionnelle. Et donc, elles vont plutôt prêter à l'État, elles vont plutôt prêter aux satellites de l'État, elles vont plutôt prêter aux conglomérats et aux gens déjà installés. Mais l'entrepreneur qui arrive et qui dit, j'ai une super idée, prêtez-moi. Ah ben non, tu n'as pas d'immobilier à mettre en collatéral, donc ça ne m'intéresse pas, reviens voir plus tard ça. Et donc, on a pas cette capacité à. Et comme il n'y a pas tellement de systèmes organisés de venture capital, il y a un peu de fonds en equity. Enfin, on trouve des choses, on va dire que ça n'existe pas. Mais
Bien
ce n'est
sûr.
pas à l'échelle appropriée. Enfin, le VC, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais avant le Covid, pour l'ensemble du continent latino-américain ou pour l'ensemble de l'Afrique, on parlait de 15 ou 20 milliards. C'est moins qu'un quartier de San Francisco. Enfin voilà, donc on n'est pas dans les mêmes échelles. Et donc l'entrepreneur, il a pas accès à tout ça. Alors il y a évidemment tout ce qui est microfinance, avec alors là aussi il y a des centaines de livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a des bénéfices évidemment, il y a plein de très bel essor de microfinance, mais la microfinance c'est pas un outil qui permet de créer des grosses entreprises. Ça permet de faire vivre toute cette communauté informelle et c'est très bien. Mais comment est-ce qu'on passe à l'étape suivante? C'est comment est-ce qu'on trouve des outils financiers qui accompagnent. Alors il y a des outils financiers. Est-ce que je peux faire avec Blue Like an Orange par exemple? Mais il y a aussi tout cet univers de nouvelles banques, de fintech, etc., qui peuvent aider à aller chercher le dernier mile, à identifier les clients. Nous, on finance, on a quelques-unes en Amérique latine, des entreprises qui permettent, sur des bases algorithmiques, intelligence artificielle, etc., une entreprise qui demande un crédit, on peut lui donner en 24 heures ou 48 heures un crédit sur la base de l'analyse de ses fichiers sociaux, fiscaux, etc. Alors, sans aller dans le folklore de « je vais regarder ta page Facebook ». Mais voilà, donc voilà, alors l'exemple d'M-Pesa est le plus connu, mais il y en a arrêté, il y en a beaucoup d'autres.
Et on a beaucoup d'autres, absolument.
Et donc pour moi, c'est très important qu'on développe ce tissu financier. Moi, quand j'étais à la Banque mondiale, je disais, quand on parle de développement, il faut des infrastructures physiques, évidemment, il faut des routes, il faut des pylônes électriques, il faut des ports, etc. Il faut des infrastructures sociales, notamment des écoles et des hôpitaux. Il faut des infrastructures financières. L'infrastructure financière, ça veut dire effectivement avoir des banques, des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'épargne qui font que la monnaie ne reste pas sous le matelas. Et donc c'est bien ça le cœur du sujet. Pour moi, c'est essentiel. On a un effet de levier beaucoup plus important, c'est ce que je disais quand j'étais à la Banque mondiale, les gens comme IFC. Si vous prêtez 10 à une fintech qui elle-même peut prêter 10 fois ce que vous prêtez, vous avez un effet de 100. Et
Exact.
IFC, qui a des objectifs de volume, qui doit faire des milliards de prêts par an, ils vont pas aller faire des trucs à 100 000 ou 50 000 ou 500 000, c'est pas leur
C'est pas
métier.
possible,
En revanche, s'ils identifient bien des bonnes fintechs qui, elles, vont faire ce métier et le font avec les bons critères, là, vous avez un effet démultiplicateur. Et c'est ce
Absolument.
que je fais avec Blue Like an Orange. Donc pour moi, c'est essentiel, cette transformation, elle est fondamentale. Il faut développer tous ces nouveaux outils financiers qui permettent effectivement d'aller toucher le dernier mile. J'avais piloté le rapport qui s'appelait From Billions to Trillions quand j'étais à la Banque mondiale et je disais au moment du sommet qu'il faudrait maintenant faire le rapport From Trillions to Millions.
Oh, pas mal, pas mal. Pour quelqu'un qui, non seulement au travers de mon travail, je couvre la tech africaine, j'ai aussi un fonds d'investissement que je suis en train de mettre en place, est-ce que moi j'ai un rapport particulier avec l'Afrique, parce que je suis africaine, et je vois comment les banques, j'ai un père qui a été banquier, donc je peux critiquer sans qu'on me tape dessus, c'est qu'il y a un regard sur l'Afrique et la banque qui est très négative. Est-ce que pour vous, vous et votre équipe, vous pensez que le venture capital, que le private equity, c'est l'avenir? Parce que,
Pas tout
puisque...
seul,
Pas
pas
tout
tout seul.
seul, ok.
Non, mais je pense qu'il faut tous les outils.
Quand on parle de certains pays où il n'y a pas trop de réglementation, de loi ou de sécurité, si je puis me dire, est-ce que, puisqu'on ne peut pas se reposer sur le gouvernement totalement, est-ce que oui, il faut impliquer tout ça, tout le monde en fait. Du coup.
Ah bah, moi, je pense qu'il faut tous les outils. Et alors après, c'est vrai que pour que ces outils se déploient, il faut un état de droit.
Ça, c'est sûr.
Si vous mettez en place un package et que ce package, vous pouvez pas l'enforce, comme on dit en anglais, parce qu'il n'y a pas de tribunaux pour le faire valoir, vous n'allez pas le faire. C'est aussi simple que ça.
Absolument. Du coup, je vais continuer sur le même volet, c'est la banque et l'avenir. C'est-à-dire, il y a tout le monde qui parle de crypto, des tokens et tout, machine learning et tout ça, tout ça. Quel est votre regard pour vous, pour vos investissements? Est-ce que vous croyez en la future d'un coin, d'un Blue Orange coin ou d'un Goldman Sachs coin ou d'un Manzon coin? Quel est votre regard sur ça?
J'ai pas de regard là-dessus.
Non?
Non, c'est pas une conversation qui me passionne.
Ok.
C'est une conversation sur les... Non, mais je ne veux pas faire semblant de vous raconter des trucs. J'ai
Non.
des idées. J'ai un avis qui change à peu près tous les jours. Je ne crois pas que ça soit l'avenir. Enfin, je pense que pour l'instant, c'est plutôt une distraction qu'autre chose.
Ok.
Donc, voilà. J'ai pas... C'est pas que je m'y intéresse pas. Je pense qu'il y a des tas de choses intéressantes à concevoir.
Ouais.
Mais c'est pas ce que je fais et j'ai pas de lumière particulière à partager.
Ça marche. Et bah du coup, je vais vous prendre sur un événement qui va se passer à Dubaï là, dans quelques mois. C'est la COP 28. Qu'est-ce que vous attendez de la COP 28? Moi, je sais pas trop. J'attends de voir ce qui se passe, mais j'ai jamais compris exactement les COP à quoi ça servait. Mais on m'a dit cette année, Dubaï, ça devrait être intéressant.
Non, mais les COP, c'est comme les assemblées des Nations Unies, etc. Si on est cynique, on dit il ne se passe rien à part des belles photos. Et en même temps, la réalité, c'est que c'est les endroits où ça cristallise. Alors, certaines années, ça cristallise beaucoup, certaines années, ça cristallise pas beaucoup. Mais chaque année, on est à un rendez-vous et on regarde par rapport à l'année précédente. Et dans un monde où il n'y a pas de maître du monde, je reviens à ce que je disais sur le sommet de Paris, etc. Pas plus Macron que Biden, que Poutine, que Xi Jinping peut dire la planète demain va là. Ça n'existe pas. La grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est comment est-ce qu'on fait planète alors qu'il n'y a pas de maître du monde.
Ouf.
Et donc, il faut avoir la modestie de se confronter à ça. Et donc, moi, je suis toujours à la fois, je partage l'agacement ou l'impatience des gens en disant il ne se passe rien. Et en même temps, ayant été dans le système, je fais preuve d'humilité. C'est que, ok, qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a personne qui va dire on fait ça et garde à vous, 1, 2, 3, en avant-marche. Donc il faut faire avec. Ça va jamais assez vite, c'est jamais assez bien, c'est exact. Mais vous pouvez pas. La COP, elle se passe dans le contexte où, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des ONG qui trouvent que ça va pas assez vite et des républicains qui trouvent que ça va trop vite. Et voilà, on n'est pas dans un monde où l'ONG peut dire républicain, tu changes, ou le républicain peut dire l'ONG, tu changes. Donc comment est-ce qu'on fait avancer tout ce monde-là, cas à cas? Alors évidemment, c'est un peu problématique parce que les urgences sont là, qu'il faut aller plus vite et qu'on n'y arrive pas. Mais pour moi, ces réunions, elles sont importantes parce que c'est l'endroit où les idées se frottent aux idées, c'est les endroits où les choses qu'on n'a pas envie d'entendre sont dites. Donc on voit bien qu'il y a certaines COP qui sont plus décisives. La COP de Paris était importante, Glasgow, je crois, était important. L'an dernier, c'était moins évident. Cette année, on va voir, je sais pas. Mais je pense qu'il. Encore une fois, quand les gens vont à une COP, ils y vont pour dire quelque chose. Donc c'est pas toujours suffisant. Mais c'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas trouvé de meilleur système. Donc voilà. Mais surtout, je vous encourage, si tout le monde commence à dire de toute façon, il ne se passe rien, il ne se passera rien.
Ça c'est sûr, ça c'est sûr.
Non, mais c'est une auberge espagnole, une COP. Vous bouffez ce que vous apportez. Donc si vous y allez en disant de toute façon c'est tous des mecs qui font rien, c'est des belles pour les ça, et ben oui, ça sera ça.
Ouais, je vois. Ouais, c'est pas faux. Je vais du coup insister sur votre projet du coup Blue Like an Orange. Quelles sont les entreprises dans lesquelles vous investissez? Est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est fermé comme information?
Alors je ne peux pas tout partager parce qu'on est régulé et qu'on est très réglementé sur ce qu'on a le droit de partager ou pas, surtout quand on est en période de levée de fonds. Donc nous, on a une approche de financement du développement durable dans les pays émergents de développement. On a fait un premier fonds d'Amérique latine, on est en train de faire un deuxième fonds qui est un peu plus large. Et on investit typiquement dans des fintechs, on investit dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans l'énergie. Et donc on accompagne des entrepreneurs qui n'ont pas forcément accès au système bancaire. Exactement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure.
Absolument. Et là, comme on est un peu, je vais dire, un peu beaucoup défaitiste sur ce qui se passe dans la situation du monde, où il y a des guerres, il y a beaucoup de problèmes, et on parle beaucoup de problèmes économiques, d'un downfall, d'un 2008 qui devrait se repasser. Bon, en 2008, j'étais à l'école, non, à la fac, on va dire, mais j'ai connu, je me rappelle 2008, Goldman Sachs et Lehman Brothers et tout ça. Si ça devait repartir en termes de problèmes économiques, quel conseil, quel regard vous auriez sur ça? Est-ce qu'on doit paniquer? Est-ce qu'on doit repenser notre système aussi, un peu de greed is good, comme on disait?
Bon, d'abord, c'est pas la peine de paniquer. le système, on le repense quand même pas assez vite, pas assez profondément depuis une quinzaine d'années quand même. On a quand même durci un certain nombre de règles, etc. Pour moi, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on est capable de changer l'operating system? Est-ce qu'on est capable de bouger un peu, de s'éloigner un peu de Friedman, l'objet social et le profit, à quelque chose qui soit, pour reprendre la formule chère à Bruno Roche et à Colin Meyer, avec qui il a travaillé sur l'objet social de l'entreprise, et de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants, et pas de profiter des problèmes concrets. Voilà, donc c'est cette bascule qu'il faut faire. Cette bascule, elle se fera par les normes comptables, elle se fera par les modes de rémunération, elle se fera par les règles de gouvernance. Et c'est ça qui est peut-être en train de commencer à se passer.
D'accord. Bah, écoutez, super. Pour finir, j'ai quelques petites questions personnelles, en tout cas par rapport à votre travail. Quels sont vos mentors dans votre monde? Quels ont été vos mentors?
Oh, j'en ai eu beaucoup. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé discuter avec des personnes ayant plus d'expérience que moi. Donc, il y a des mentors qui sont restés très régulièrement, puis il y a des mentors que j'ai perdu de vue, des mentors qui sont décédés, etc. J'ai été évidemment très influencé par mes parents, mais dans mes mentors un peu professionnels, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup compté, dont trois personnes, dont une qui est toujours vivante, qui est Michel Cantsu, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, avec qui je parle très régulièrement, encore le week-end dernier, qui est vraiment la personne qui m'a inspiré, et deux personnes avec qui le connaissaient, avec qui j'ai travaillé, hein, qui s'appelait Jean Boissonnat, qui était un grand journaliste économique, vulgarisateur, qui m'expliquait aux gens pourquoi l'économie, c'était compliqué, comment ça marchait, il arrivait à la rendre simple, et qui a une grande visibilité, parce qu'il a été notamment le journaliste qui a arbitré le débat présidentiel entre Giscard et Mitterrand. Donc c'était... un très grand journaliste. Il y a une autre personne qui s'appelle Michel Albert, qui a été, entre autres, le patron des AGF, patron de l'Express, qui avait écrit le livre Capitaliste contre capitalisme, et qui avait fait une émission, alors ça ne va rien vous dire, mais qui pour ma génération est très importante, en 1983. Il a fait une émission avec Yves Montand, qui s'appelait Vive la crise et l'inflation. Pendant 2 fois 2 heures, en prime time sur la télévision, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui, il avait expliqué la crise internationale en termes assez extraordinaires. Une autre personne qui est décédée, qui s'appelle Jean Guyot, qui était le bras droit de Jean Monnet à la création de l'Europe. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnalités de toute nature. Voilà, je peux vous citer ceux-là, il y en a pas mal d'autres. J'aime beaucoup Paul Polman, qui était l'ancien patron d'Unilever. J'interagis beaucoup avec quelqu'un comme Emmanuel Faber, par exemple, pour prendre quelqu'un de plus récent, qui est plus un ami qu'un mentor. On n'est pas d'accord sur tout. Mais voilà, moi j'aime bien. En tout cas, je ne renie aucune des influences et je vais plutôt les rechercher.
D'accord. Et quel serait un mot un conseil pour les nouvelles générations, pour ceux qui, je veux dire, moi et un peu plus jeune quand même, qui ont un peu ce regard sur le capitalisme, non plus cynique, parce qu'à un moment j'en ai eu un, mais qui se disent, mais en fait, la finance est bien, c'est intelligent.
Non, la finance, c'est pas bien ou pas, je sais plus qui disait ça, c'est ni bien, ni mal, ni neutre. C'est un outil,
oui.
C'est un outil, et donc, voilà, il faut avoir le courage de prendre l'outil à bras le corps et d'essayer d'en faire le meilleur usage. Moi, ma réponse, derrière tous les gens qui disent « Oh, la COP, encore une COP, ah bah là, on n'arrive pas à changer, bah là, il se passe rien », c'est de dire on est tous capables, à notre niveau, de faire quelque chose. Alors, c'est sûr, quand on est patron du FMI ou de la Banque mondiale, on a un peu plus de levier que quand on est un jeune interne dans une petite entreprise, évident. Mais en même temps, surtout dans le monde d'aujourd'hui, un monde de réseaux sociaux, de coalitions, etc., on a la capacité à faire bouger les choses. Quand vous avez eu 30 000 étudiants français qui ont signé le pacte pour la nouvelle génération, j'étais aux États-Unis, je ne me souviens plus bien du nom, en disant « on ira pas très dans telle ou telle entreprise », bah, c'est un signal très fort. Quand vous avez des gens qui disent « j'investis plus dans tel ou tel sujet », c'est un signal. Enfin, donc que ce soit avec son argent, l'endroit où on va travailler, son bulletin de vote, les associations qu'on rejoint, on a tous une capacité à faire bouger un peu, beaucoup, passionnément les lignes. Et donc voilà. Donc si moi j'aime pas les gens qui se plaignent et qui font rien. Je pense que encore une fois on est à la croisée des chemins et personne n'a la vérité. Je sais pas. Même moi, si on a une baguette magique, je sais pas ce que je ferais. Mais en tout cas, on peut pas se réfugier dans l'attentisme en disant je vais voir ce qui se passe. De toute façon, c'est tous des cons, il se passera rien. Si c'est le cas, il faut s'en prendre qu'à soi-même. Mais on est tous capables de faire quelque chose.
Pas mal. En tout cas, merci beaucoup, non seulement pour votre temps, mais pour votre implication, pour tout ce qui se passe dans le monde. Et oui, je serais ravie d'en parler un peu plus avec mes auditeurs et qui vont sûrement vous contacter ou en tout cas regarder 2-3 trucs sur Internet. Et je les invite sûrement à aller acheter vos bouquins parce qu'ils sont super intéressants.
Qu'ils n'hésitent pas.
Voilà, merci beaucoup en tout cas.
Au revoir.